Soit avec vous.
Et
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amènent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents le présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. » Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge, après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait, se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Si j'ose dire, cette fête du 2 février, d'un point de vue religieux, passe un peu inaperçue au profit des crêpes et de la chandeleur, parce que la plupart du temps, elle est célébrée en semaine, et aujourd'hui, le 2 février tombe un dimanche, et c'est l'occasion de déployer pour tous ceux qui participent à l'Eucharistie ce dimanche, de déployer la liturgie de la lumière, puisque c'est une fête de la lumière. Le mot chandeleur vient de chandelle, évidemment, vous l'aurez deviné, et c'est une façon populaire de désigner cette fête de la présentation du Seigneur. Mais c'est vraiment une fête qui a de multiples facettes. Et si l'on essaye un petit peu de faire le tour de l'ensemble de ces différentes facettes, on voit bien que c'est une fête de la lumière, c'est une épiphanie de plus. Hein. On parlait des 3 épiphanies de Noël, du baptême et des noces de Cana, mais il y a aussi celle-ci, c'est une manifestation de Jésus comme lumière des nations. Il y a aussi l'aspect de rencontre entre Dieu et son peuple, puisque Siméon et Anne viennent à la rencontre de l'enfant Jésus. Il y a aussi cette fameuse parole prononcée par Siméon à la Vierge Marie que nous venons d'entendre. Donc c'est un aspect de compassion de la Vierge Marie qui est montré. Il y a aussi la fidélité, le grand oui. On l'a entendu à travers la lettre aux Hébreux, mais aussi c'est présent en arrière-fond. Le oui que Jésus vient prononcer envers son Père et qu'il prononce sans cesse, c'est le oui éternel du Verbe dans lequel chacun de nos oui vienne se situer aussi, que ce soit le oui de Marie à l'Annonciation, mais que ce soit notre propre oui venant de notre baptême, de notre engagement quel qu'il soit, de notre vie consacrée. Tout oui donné à Dieu s'enracine dans le oui de Jésus, dans le oui du Verbe éternel qu'il prononce envers son Père. Ce sont les différentes facettes de cette fête qui nous sont proposées aujourd'hui. Alors il y a aussi le titre de la fête, on dit la présentation du Seigneur. Ce disant, on ne fait qu'avaliser ce que saint Luc a marqué dans son récit. Il venait pour le présenter au Seigneur, pour leur purification, dit-il, pour le présenter au Seigneur. Or, on a beau chercher dans la Bible, on ne sait pas très bien ce que c'est qu'une fête de la présentation. En revanche, il y a la fête de la purification de la mère, 40 jours après la naissance, mais Marie n'avait pas besoin d'être purifiée. Il y a la fête du rachat des premiers-nés, on l'a entendu avec la citation d'un verset de l'Exode, mais Jésus le Rédempteur n'avait pas besoin d'être racheté. Et voici que Luc a, avec aussi la question de l'offrande qui est faite à chacune de ces deux fêtes, voici que Luc a saisi ensemble ces deux aspects en leur donnant un troisième nom, qui est le nom de présentation, et alors qui nous renvoie à la prophétie de Malachie que nous avons entendue en première lecture, une prophétie un petit peu obscure, qui peut dater du 5e siècle avant Jésus-Christ, où on nous parle du Seigneur qui va rentrer dans son temple, qui va venir dans son temple. Et c'est un peu le sens que Luc donne à cet épisode, l'apparition et l'entrée du Seigneur dans son temple, qui vient purifier à la fois le temple, Jérusalem, le sacerdoce, que sais-je, car quand on nous dit leur purification, il ne s'agit pas de la purification de Marie et de Joseph, ni de Marie et de Jésus. Et d'ailleurs, la traduction liturgique a aplati le « leur » en mettant « la purification », ce qui est bien dommage. Mais il s'agit précisément, dans cette perspective de Malachie, de la purification de la ville de Jérusalem et du Temple. Revenons à cette figure du vieillard Siméon. Peut-être avez-vous observé que dans le récit que fait Luc, il y a comme une sorte de croisement en chiasme d'épisodes qui ont rapport à la loi. Alors on voit bien que Marie et Joseph se conforment à la loi juive en venant ainsi au temple. D'ailleurs, il n'y avait pas besoin d'y aller en famille. Généralement, c'était le père de famille qui y allait, puisque la maman était après la naissance. Et voici que le vieillard Siméon va se présenter, lui, comme propulsé par le Saint-Esprit. Et Saint-Luc fait le croisement entre l'observance et l'obéissance à la loi, et puis la nouveauté de l'Esprit qui fait surgir un regard nouveau pour cet homme qui est rempli du Saint-Esprit, qui est conduit par l'Esprit et qui vient au temple mu par l'Esprit et qui reconnaît le Messie dans l'enfant Dieu. Et alors, il va dire qu'il est la consolation d'Israël, il est la lumière des nations. Il ne va pas le devenir, il l'est, et il l'est depuis que ça a été annoncé par l'ange Gabriel à Marie. Et il va donner une magnifique prophétie de la passion du Christ, mais sans prononcer le mot de passion, il va dire que Jésus sera un signe de contradiction, qu'il opérera un renversement du cœur, un renversement jugement, comme on le trouve dans le Magnificat. Et Siméon va transférer cette prophétie au cœur de Marie, en lui disant « Ton cœur sera transpercé par un glaive ». Et c'est comme pour c'est pour la Vierge Marie comme une seconde annonciation, au fond. Il y a eu l'annonciation qui concernait l'incarnation du Fils, et maintenant il y a une seconde annonce qui concerne la rédemption et la passion, et la compassion de Marie aussi. L'union, la façon dont le cœur de Marie va s'unir au cœur de Jésus dans cette offrande et dans ce mystère de rédemption. Alors, tout au long des siècles et de la méditation des uns et des autres et des célébrations liturgiques, on a évidemment approfondi ce mystère de la présentation de Jésus au Temple. Et je le disais tout à l'heure en entrée, récemment, le pape Jean-Paul II a voulu faire du 2 février la journée mondiale de prière pour la vie consacrée et de célébration de la présence de la vie consacrée dans l'Église. Et nous rendons grâce d'être ici ce dimanche dans un monastère où nous est proposée précisément la liturgie par une communauté en vie consacrée cistercienne. Et il y a aussi toute la méditation sur la Vierge Marie et la façon dont elle offre son enfant au Temple. Je terminerai en citant un passage de saint Bernard, cistercien, qui est repris par Paul VI dans sa lettre sur le culte marial, où il remettait les pendules à l'heure sur les différentes célébrations mariales dans la liturgie. Et le pape Paul VI disait ceci: l'Église, surtout à partir du Moyen Âge, a entrevu dans le cœur de la Vierge, qui porte son Fils à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, une volonté d'oblation qui dépasse le sens ordinaire du rite qu'elle accomplissait. De cette intuition, nous avons un témoignage dans l'affectueuse interpellation de saint Bernard. Offre ton Fils, Vierge Sainte, et présente au Seigneur le fruit béni de tes entrailles. Offre pour notre commune réconciliation la victime sainte qui plaît à Dieu.